Chapitre 1, le coup de foudre. Le 15 septembre 1840, vers 6h du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Les colis montaient entre les deux tambours, et au milieu du tapage, qui s'absorbait dans le bruissement de la vapeur, la cloche en avant tintait sans discontinuer. Le navire partit soudain. Et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait passer l'été avant de revenir faire son droit à Paris. Il était arrivé la veille du Havre, où sa mère l'avait envoyé voir un oncle, dont elle espérait pour lui l'héritage. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame, et bientôt Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Tout en pensant à sa future vie d'étudiant, à la chambre qu'il occuperait bientôt, au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures, Frédéric s'avança jusqu'au bout, du côté de la cloche. Et dans un cercle de passagers et de matelots, vit un gaillard d'une quarantaine d'années à cheveux crépus qui plaisantait avec une paysanne, tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tout ce qui l'entourait. Quelques instants plus tard, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit. La conversation roula d'abord sur les différentes espèces de tabac, puis tout naturellement sur les femmes. L'homme donna des conseils à l'étudiant. Il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même en exemple, débitant tout cela d'un ton paternel. Il était républicain, il avait voyagé, il connaissait l'intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux et tous les artistes célèbres, qu'il appelait familièrement par leur prénom. Frédéric lui confia bientôt ses projets artistiques. Il les encouragea. Le jeune homme éprouvait un certain respect pour ce passager volubile et ne résista pas à l'envie de savoir son nom. L'inconnu répondit tout d'une haleine « Jacques Arnoux, propriétaire de l'art industriel boulevard Montmartre ». Un domestique ayant un galon d'or à la casquette vint lui dire « Si monsieur voulait descendre, mademoiselle pleure ». Il disparut. L'art industriel était un établissement hybride, comprenant un journal de peinture et un magasin de tableaux. Frédéric avait vu ce titre-là plusieurs fois à l'étalage du libraire de sa ville natale, sur d'immenses prospectus où le nom de Jacques Arnoux se développait magistralement. Le soleil dardait d'aplomb en faisant reluire les fers autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en deux sillons qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, et l'ennui vaguement répandu semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. On entendait par intervalles le bruit du charbon dans le fourneau, un éclat de voix, un rire. Sur la passerelle, le capitaine marchait d'un tambour à l'autre, sans s'arrêter. Pour rejoindre sa place, Frédéric dut se frayer un passage au milieu des ouvriers et des familles qui stationnaient devant la porte des premières. Quand il poussa le battant, ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules. Et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière elle. Ses cheveux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse coiffée d'un foulard se présenta en tenant par la main une petite fille. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans. Mais entraîné par les franges, il glissait peu à peu, et il allait tomber dans l'eau. Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur ». Leurs yeux se rencontrèrent. « Ma femme, es-tu prête ?» cria le sieur Arnoux, apparaissant dans l'escalier. La petite se jeta dans les bras de son père, tandis qu'elle se levait pour suivre son mari. Arnoux engagea Frédéric à descendre au restaurant avec eux. Le jeune homme accepta de les accompagner, mais dit qu'il venait de déjeuner. Il mourait de faim, au contraire, mais il ne possédait plus un centime au fond de sa bourse. Pendant le déjeuner, il apprit que le couple et leur fille devaient, à Montreux, prendre la diligence de Châlons. Ils se rendaient en Suisse pour un mois. Le plafond, bas et tout blanc, rabattait une lumière crue. Frédéric en face distinguait l'ombre de ses cils. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre sonnait contre son assiette. Arnoux se plaignit de la cuisine. Il se récria considérablement devant l'addition, et il la fit réduire. Puis il emmena le jeune homme à l'avant du bateau pour boire des grogs. Frédéric accepta par politesse, mais s'en retourna bientôt sous la tente où Madame Arnoux était revenue s'asseoir. Elle lisait un mince volume à couverture grise. Les deux coins de sa bouche se relevaient par moments, et un éclair de plaisir illuminait son front. Il jalousa celui qui avait inventé ces choses dont elle paraissait occupée. Plus il la contemplait, plus il sentait entre elle et lui se creuser des abîmes. Il songeait qu'il faudrait la quitter tout à l'heure, irrévocablement, sans en avoir arraché une parole, sans lui laisser même un souvenir. Une plaine s'étendait à droite. À gauche, un herbage allait doucement rejoindre une colline où l'on apercevait des vignobles, des noyers, un moulin dans la verdure et des petits chemins plus loin, formant des zigzags sur la roche blanche qui touchait au bord du ciel. Quel bonheur de monter côte à côte, le bras autour de sa taille pendant que sa robe balayerait les feuilles jaunies, en écoutant sa voix sur le rayonnement de ses yeux. Le bateau pouvait s'arrêter, il n'avait qu'à descendre, et cette chose bien simple n'était pas plus facile, cependant, que de remuer le soleil. « Va-t-elle enfin me parler ?» se demandait-il. Le temps pressait, comment obtenir une invitation chez Arnoux ? Et il n'imagina rien de mieux que de lui faire remarquer la couleur de l'automne, en ajoutant « Voilà bientôt l'hiver, la saison des bals et des dîners ». Mais Arnoux appela sa femme et sa fille à l'arrière, où il avait fait mettre leurs bagages. La côte de Surville apparut. Les deux ponts de Montreux se rapprochaient. On longea une corderie, ensuite une rangée de maisons basses. Il y avait en dessous des marmites de goudron, des éclats de bois, et des gamins couraient sur le sable en faisant la roue. Frédéric reconnut un homme avec un gilet à manches. Il lui cria « Dépêche-toi !» On arrivait. Il chercha péniblement Arnoux dans la foule des passagers, et l'autre répondit en lui serrant la main. Au plaisir, cher monsieur. » Quand il fut sur le quai, Frédéric se retourna. Elle était près du gouvernail, debout. Il lui envoya un regard où il avait tâché de mettre toute son âme. Peine perdue, elle demeura immobile. Il finit par suivre à contre-cœur son domestique qui était venu l'attendre. Dans la voiture qui le ramenait à Nogent, tout son voyage lui revint à la mémoire d'une façon si nette qu'il distinguait maintenant des détails nouveaux, des particularités plus intimes. Sous le dernier volant de sa robe, son pied passait dans une mince bottine en soie, de couleur marron. La tente de coutil formait un large dais sur sa tête, et les petits glands rouges de la bordure tremblaient à la brise, perpétuellement. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Il n'aurait voulu rien ajouter, rien retrancher à sa personne. L'univers venait tout à coup de s'élargir. Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeaient. Et bercé par le mouvement de la voiture, les paupières à demi closes, le regard dans les nuages, il s'abandonnait à une joie rêveuse et infinie. Arnoul l'avait appelée Marie. Resté un moment seul dans la voiture au cours d'une halte, il cria très haut « Marie !» Sa voix se perdit dans l'air. Quand son domestique l'eut rejoint, il se plaça sur le siège pour conduire. Sa décision était prise. Il la retrouverait à Paris. Il était bien résolu à s'introduire d'une manière ou d'une autre chez les Arnoux et à se lier avec eux. Leur maison devait être amusante. Arnoux lui plaisait d'ailleurs. Puis, qui sait ? 9 heures sonnaient lorsqu'il arriva devant la maison de sa mère. Cette maison spacieuse, avec un jardin donnant sur la campagne, ajoutait à la considération de Madame Moreau, qui était la personne du pays la plus respectée. Dès qu'il fut entré, sa mère lui demanda « Eh bien ?» Le vieillard l'avait reçu très cordialement, mais sans montrer ses intentions. Madame Moreau soupira. Le frère de son défunt mari n'ayant pas d'héritier direct, elle espérait qu'il se prononcerait en faveur de son neveu. Mais rien. Frédéric était à 100 lieues des pensées de sa mère. « Où est-elle à présent » songeait-il. La diligence roulait et enveloppée dans le châle sans doute, elle appuyait contre le drap du coupé sa belle tête endormie.